Bonsoir. Situation sécuritaire au Nord Kivu depuis hier lundi 11 mars. Les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, occupent la localité lacustre de Vichumbi dans le parc national de Virunga au Nord Kivu. Selon des sources locales, les rebelles sont entrés sans combat dans cette agglomération localisée au bord du lac Édouard. Durant les deux dernières semaines, la rébellion s'est emparée de plusieurs villages et localités du territoire de Rutshuru, notamment Nyanzale, Kikuku, Mutsanda, Kabirizi, ainsi que la station de la Rwindi, située au cœur même du parc de Virunga. Entre-temps, plusieurs appels et initiatives pour le règlement pacifique de la crise dans l'est du pays sont enregistrés. La dernière en date est celle du président angolais, João Lourenço. À l'issue de sa rencontre avec le président rwandais hier lundi à Luanda, Paul Kagame a donné son accord pour rencontrer son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi. Le lieu et la date de cette rencontre annoncée entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame devront être déterminés par le chef d'État angolais, médiateur désigné par l'Union africaine. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts du médiateur pour amener la paix et la réconciliation dans la région, notamment dans l'est de la RDC. Quelle analyse faire de cette situation? Nous en parlons ce soir avec Timothée Tshaombo-Soutcha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Timothée Tshaombo-Soutcha, bonsoir.
Bonsoir Madame Kélinkouté.
Moïla Tiembe, professeur et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Professeur Tiembe, bonsoir.
Bonsoir Madame Kélinkouté.
Et Christophe Vogel, directeur des recherches du projet Insecure Livelihood à l'Université de Gand en Belgique. Il est aussi cofondateur de l'Institut des recherches Boutelli en RDC et aussi ancien membre du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC. Christophe Vogel, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
À Goma, en Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Vous pouvez aussi suivre cette émission sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre ce magazine en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Province du Nord Kivu, la situation sécuritaire et humanitaire reste préoccupante dans les localités nouvellement occupées par les rebelles du M23. C'est notamment le groupement Mutanda, territoire de Rutshuru, et le groupement Bachali Mokoto, territoire de Masisi. Pour en parler, nous recevons depuis Goma Bernardin Yangui.
Bonsoir Bernardin.
Bonsoir Guy.
Pour commencer, dites-nous comment évolue la situation ce mardi dans la zone.
En fait, une accalmie précaire est rapportée ce mardi, notamment dans la zone de la Rwindi et Vichumbi. Comme vous le savez, ces deux localités sont passées sous occupation des rebelles du M23 les deux derniers jours dans le Rutshuru. Cependant, sur l'axe Mwesokashuga, territoire de Masisi, la situation est toujours volatile. Sur cet axe, en effet, après que l'avancée des rebelles vers Pinga dans le Walikale a été stoppé dimanche, des accrochages y sont signalés constamment. Hier lundi par exemple, des combats violents y ont opposé les rebelles du M23 aux éléments des groupes armés locaux entre 10h et 16h locales, notamment dans les localités de Kirumbu et Changé, nord-ouest de Kichanga et Mweso. Dans la zone, une présence de l'armée congolaise est encore signalée vers Kalembe, près des limites avec le territoire de Walikale. Mais aucune présence de l'armée congolaise n'est à présent signalée dans une majeure partie du territoire de Rutshuru.
Quel est l'état des lieux actuellement de l'autorité de l'État dans cette partie de la province?
En effet, après les dernières occupations de la Rwindi et Vichumbi sans combat, ainsi que de Kibirizi, Somiki, Vunyanzale et même Kikuku, qui est le chef-lieu de la chefferie de Bwito, les rebelles du 1-23 ont élargi la zone qu'ils occupent à près de 90% du territoire de Rutshuru. Cela est additionné à la grande partie est du territoire de Masisi, allant de Mweso jusqu'aux environs de Sake, Kiroche et Chacha, passant par Kichanga, Kiloliro et Mushaki. Il ne faut pas non plus perdre de vue, Guy, qu'ils occupent toujours la partie nord du territoire de Nyiragongo, notamment une partie des groupements de Kibumba et Bumba, entraînant une catastrophe humanitaire indescriptible.
Bernardin, quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur les chefs-lieux de cette province?
Parlons de la ville de Goma, elle-même, elle est de plus en plus enclavée, complètement encerclée, avec la présence, comme vous le savez, d'un nombre estimé à près d'un million de personnes déplacées tout autour de la vie devient très chère et difficile. Et pendant que les habitants de la ville eux-mêmes ont à peine à se mettre sous la dent car la ville est coupée de tous ses axes d'approvisionnement en produits vivriers, on observe des centaines de déplacés circulant dans des avenues pour mendier la nourriture et cela tous les jours. Cette situation est aussi exacerbée par l'activisme des bandes armées qui insécurisent les avenues et même les sites des déplacés. C'est pourquoi l'on enregistre plusieurs réactions, notamment de la société civile et cadres de base, demandant au gouvernement de trouver urgemment une solution à la crise.
Et que pense la population de la situation sécuritaire et humanitaire?
Les réactions de la population vont de la déception aux pressions sur le gouvernement pour trouver une solution urgente. La déception à la suite notamment du fait que les localités sont occupées les unes après les autres et après la prise lundi, comme nous l'avons évoqué, de la localité de Vichumbi au lac Édouard, sans combat, la coordination provinciale de la société civile Force Vive a sorti une déclaration. Elle exhorte le gouvernement à être plus impliqué sur le terrain pour restaurer la stabilité, notamment dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Ce, avant d'exiger l'envoi du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des FARDC à Goma pour un mécanisme permanent d'évaluation de la situation. Cela jusqu'à la libération totale des zones occupées par les rebelles. Voilà tout, Guimaté.
Merci beaucoup, Bernardin Nyangi.
Merci à vous. Bonsoir.
Alors c'était la Bernard Nyangi qui nous faisait le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Timothée Chaombo Souchar, vous êtes chercheur en coopération, prévention et résolution de conflits à l'université de Louvain en Belgique. La situation sécuritaire et humanitaire très préoccupante dans la province du Nord Kivu. Durant les deux dernières semaines, les rebelles du M23 se sont emparés de plusieurs villages et localités dans la province du Nord Kivu. La population, la situation humanitaire très catastrophique. Près d'un million de personnes déplacées tout autour de la ville de Goma et dans Goma. Comment vous analysez cette situation? D'abord, cet activisme hein, des rebelles du M23 qui se sont emparés de plusieurs villages et localités très facilement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, madame. Premier élément qu'il faut souligner, bon, c'est au niveau de terminologie ici. D'abord, nous ne sommes pas en situation d'insécurité, nous sommes en situation de guerre totale, où on connaît l'agresseur, où on connaît ceux qui font la sous-traitance et les commanditaires. Régionaux, qui sont certains pays limitrophes, mais également... l'Union européenne qui par procuration est en train de soutenir cette guerre dans un comportement d'ambivalence totale au moment où je viens de suivre il y a une heure et demie ou deux heures le Premier ministre français Gabriel Attal qui condamne le Rwanda, je vais dire la Russie, d'agresser l'Ukraine et qu'il y a des sanctions. L'ensemble de la communauté internationale, je veux dire des pays, des grandes puissances, même des pays européens, voilà, et que vous savez que cette situation se trouve dans un contexte économique d'exploitation. L'activisme du M23 doit être situé dans un contexte de deux éléments, le contexte d'exploitation de minerais et le contexte d'orogenèse. On veut passer des frontières lignes à des frontières zones, afin de grouper une population linguistiquement, culturellement, ethniquement homogène. Contexte économique, c'est que nous sommes de plein pied dans la deuxième guerre froide liée au contrôle des territoires qui régorgent de minerais stratégiques qui rentrent dans la transition énergétique. Et que de ce fait, une fois de plus, les grandes puissances sont dans la prédation, dans l'antisme de mettre la main sur ces minéraux dont la RDC régorge les coffres les plus importants. Et vous avez vu que l'Union européenne, le 19 février dernier, a signé un protocole d'accord d'exploitation et de la pérennisation du contrat entre l'Union européenne et le Rwanda dans l'exploitation des minéraux que le Rwanda n'a même pas un seul gramme sous son sol. Le contexte est celui-là, parce que vous avez parlé tantôt dans votre introduction des négociations qui seront, voilà, moi je soutiens bien les négociations, toute crise dans le monde finisse toujours par la table de négociation. Mais le principe nous renseigne que parfois on va vers la table des négociations en position de force, parfois en position égale, parfois en position de faiblesse. Et dans les cas d'espèce, la RDC va en position de faiblesse parce que l'autorité de l'État n'est pas contrôlée sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, les catastrophes humanitaires, vous avez des localités qui tombent sans combat, c'est-à-dire la capacité, les rapports de force va s'inviter à la table de négociation entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président Kagame. Dans le monde entier, c'est les rapports de force avant tout. Alors, lorsque vous jetez un coup d'œil sur les négociations vers lesquelles nous y allons, quel sera le thème de ces négociations? Le retrait? C'est pour ça que je n'aime pas parler des rebelles. Ce ne sont pas des rebelles, c'est des agresseurs, dans lesquels se trouvent des Congolais. Nous sommes dans un contexte de guerre totale, guerre économique, mais aussi les révisionnismes des frontières qui se trouvent dans certaines officines occidentales qui disent que les pays que nous avons colonisés ont hérité des frontières liées au rapport des forces dans le monde et qui n'ont pas tenu compte des spécificités culturelles, ethniques, linguistiques, etc. et qu'il faut revoir ces frontières-là. C'est un thème de propagande, le thème du type minorité. C'est un thème de propagande qui cache la réalité. La réalité, c'est mettre la main sur les richesses de d'autres pays. C'était comme ça, on a accusé les Janjaweed, ceci, il fallait la partition du Soudan. Vous voyez que le Soudan est toujours dans le problème, quand bien même le Soudan du Sud est né. Donc le problème est ailleurs. C'était le pétrole, point barre. Et on ne trouve plus personne au Soudan. C'était la même chose en Somalie, on ne trouve plus personne en Somalie. On a toujours des thèmes de propagande, parce que auprès du président Lorenzo, quelqu'un va sortir la carte d'une minorité qui serait en danger dans notre pays, mais il faut savoir que la RDC est une très grande mosaïque. Quand vous enlevez la file, les petites frontières que nous avons à gauche à droite avec les neuf pays frontaliers, mais on trouve des peuples de part et d'autre des frontières. On trouve les Tshokwe en Angola comme un RDC. Le président Lorenzo ne va pas venir tenter de protéger les Tshokwe, sa population vient de l'autre côté. Le président ougandais ne peut pas tenter de venir protéger les Nandé, qui sont les Hira en Ouganda. Le président Sassou Nguesso ne va pas venir protéger les Bateke, etc. Et voilà. Donc, ce sont des arguments fallacieux qu'on va amener à la table de négociation. Un autre argument fallacieux qui est totalement faux, et Madame Kelly, je vous invite à faire un petit calcul, quand il y a eu le génocide au Rwanda, les ex-génocidaires ont aujourd'hui plus de 70 ans, qu'aujourd'hui le Rwanda a le prétexte de des génocidaires qui voudraient déstabiliser le Rwanda, ce qui est totalement faux, encore que dans le cas d'espèce, le Rwanda qui prétend vouloir prendre tous les réfugiés, je ne mélange pas les choses dans le même panier, mais qui prétend prendre tous les réfugiés de la Grande-Bretagne, mais il peine à prendre les réfugiés Hutus, qu'ils organisent un dialogue chez eux au Rwanda, et que les Hutus et les Tutsis et les Twa organisent leur pays.
Alors,
le Rwanda,
en entendant ce dialogue, Timothée Tshombo-Soutcha, entre le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi, sur terrain au Nord Kivu, ce sont ces rebelles du M23 qui prennent des localités. Alors la population se pose la question de savoir ce qui ne va pas pour que ces M23 puissent prendre aussi facilement certaines localités, certains villages dans le Nord Kivu.
Oui, là, nous revenons à la situation interne de la RDC, qui est une situation, je veux dire, aussi quasiment cancérigène de la gestion de notre armée, à la fois qui est inféodée, infiltrée, mais aussi la capacité même des RDC. Nous avons un cadre. Là, toutes les armées au monde fonctionnent dans un système triangulaire d'un cadre. Vous avez le ministère de la Défense qui dirige la politique de l'armée. Mais vous avez l'état-major général où vous avez, on nous dit que l'armée nationale de la RDC est de 165 000 hommes. Mais où sont ces 165 000 hommes au Kivu? Où sont-ils? Et quel est le budget qui est alloué à l'armée? Comment est-ce qu'on peut donner 1 milliard de dollars à notre armée qui a 165 000 hommes et le Burkina Faso qui a 11 200 hommes et il alloue aussi 1 milliard de dollars? Je parle du budget militaire de 2023 pour ces deux États. Vous voyez que ce n'est pas la même chose et que nous avons un problème de pays entiers qui agressent la RDC et qui ravitaient en logistique le M23. Le M23 aujourd'hui à la logistique du Rwanda, à la logistique de certains pays de l'EAC comme l'Ouganda, comme le Kenya, mais a aussi le budget qui lui est alloué par l'Union européenne. Nous faisons la guerre avec l'ensemble des pays occidentaux, il faut qu'on le note ici. Et c'est ici qu'il faut interpeller la conscience des dirigeants congolais, commençant par le président de la République, de prendre la responsabilité d'allouer les fonds parce qu'il y en a à notre armée. Même le budget doit être revu à la hausse et qui est qu'on détecte, et c'est ce que le président Zelensky a fait en Ukraine, détecter tous ceux qui sont complices de la Russie et les extirper de l'armée. Nous avons des gens qui sont au sein de notre armée et qui sont en connivence avec l'ennemi. Donc, un travail doit se faire, mais les moyens ne suivent pas, tant au niveau du service de renseignement, de la sûreté de l'État qu'on appelle l'ANR, il n'y a pas de moyens là-bas. Il n'y a pas de moyens au sein des FARDC, la situation dans laquelle nos militaires se trouvent. Aucun militaire ne touche l'équivalent même de 10%. Si nos militaires touchaient ne serait-ce que l'équivalent des 10% des émoluments de députés, qu'un dernier soldat qui est au front, qui touche 2 100 $, la donne va changer, parce que le militaire est pris en charge. La question, c'est que les institutions politiques consomment 80% du budget, alors que le pivot central, notre propre colonne dorsale qui est l'armée, le budget qui est alloué à notre armée est inférieur.
Merci.
Et il ne faut pas aller se plaindre partout. Il y a des pays qui se prennent en charge. Israël n'est pas allé au Conseil de sécurité des Nations Unies lorsqu'il a été attaqué. Il a évalué ses forces. Il a mobilisé son peuple, son narratif était clair et il s'est mis au front. Nous sommes plus de 102 millions d'habitants, nous sommes agressés, l'ensemble de notre peuple est derrière son armée, mais les moyens ne suivent pas, les politiciens bouffent tous les moyens.
Merci, on vous garde encore dans cette émission, Timothée Tchaoumbo, professeur Moïla Tchiembe, professeur et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Professeur, vous avez suivi notre collègue de Goma, Bernard Nyangui. La population est déçue parce que les localités sont en train d'être occupées les unes après les autres par les rebelles du M23 sans une réponse de l'armée congolaise pour la reconquête de ces entités. Je voulais dire, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe hein, au niveau du Nord Kivu, ces M23 voilà, qui se promènent hein, presque dans les localités, qui prennent de localité son combat. Qu'est-ce que vous en pensez? Professeur Moïla, est-ce que vous êtes en ligne? Je pense qu'on a perdu le professeur Moïla. La réalisation va essayer de le rappeler. Christophe Vogel, vous répondez à la question?
Oui, bonsoir d'abord à tous les auditeurs. Je vais prendre 10 secondes pour quand même dire que c'est le 12 mars, donc ça fait 7 ans que Michael Sharp et Zaida Catalan qui enquêtaient sur les guerres et sur les violations des droits de l'homme en RDC ont été assassinés, et je pense que c'est quand même à ce jour aussi utile de peut-être un peu se rappeler de leur mémoire aussi, et non seulement d'eux mais aussi de toutes les autres victimes des différents conflits qui ont frappé la RDC depuis trop longtemps. Je pense que actuellement on fait face d'une situation qui généralement est un échec de la diplomatie à tous les niveaux. Nous avons écouté au début de l'émission que il y a eu des pourparlers, il y a beaucoup de débats sur est-ce que ou pas il y aura des négociations notamment entre la RDC et le Rwanda directement. Nous voyons un processus de Nairobi qui engage essentiellement le gouvernement congolais et les différents groupes armés qui existent en RDC, pas tous mais une grande majorité parmi eux. Et nous voyons au niveau régional aussi un processus connu sur le nom de feuille de route de Luanda qui engage la RDC et les États voisins, essentiellement le Rwanda qui est au cœur aussi de cette crise actuelle. Mais jusqu'à présent, ce qui se passe, c'est que tous ces pourparlers, etc., n'ont pas vraiment d'issue. Donc on voit sur terrain une dégradation de la situation. Nous voyons des gains de terrain, notamment du côté de la rébellion du M23, mais nous voyons aussi beaucoup de violations de différents types, de droits de l'homme et autres, qui font que essentiellement la population du Nord Kivu va de plus en plus mal. Et ceci aussi est un peu différent que d'autres crises récentes. On se rappelle par exemple le M23 n'est pas une rébellion qui est née en 2021, c'est une rébellion qui a vu le jour en 2012 et qui d'ailleurs a ses prédécesseurs, le CNDP, le RCD, etc. etc. Mais ce qui se passe actuellement, si on regarde un peu de plus près la situation humanitaire, c'est surtout une crise humanitaire qui s'approfondit dû au fait que il y a un climat politique qui a engendré une escalade non seulement sur le champ de bataille mais aussi au niveau diplomatique, au niveau rhétorique, ce qui fait que par exemple des acteurs humanitaires, que ça soit des associations et organisations congolaises autant que les ONG ou notamment le CICR, par exemple, qui a fait un cri d'alarme la semaine passée concernant la situation humanitaire au Nord Kivu, ont de plus en plus de mal de passer d'une ligne de front à l'autre. Or, il y a des populations civiles qui ne sont pas engagées aux côtés d'une ou d'une autre, d'un autre belligérant, mais qui souffrent et qui ont besoin de soutien. Mais la crise actuelle, la crise politique, la crise du discours public, mais aussi de la diplomatie, fait que de plus en plus on a des fronts dans cette guerre qui sont tellement durs que les acteurs humanitaires ont de plus en plus de mal de négocier en fait l'accès pour venir subvenir aux besoins de ces populations. Et cela est actuellement qu'on regarde vers le nord de Rutshuru ou qu'on retourne vers le Masisi dans le Bashali, c'est de plus en plus un grand défi en fait pour les populations et surtout ceux qui ne sont pas activement engagés dans cette guerre.
Alors Christophe Vogel, à vous suivre, vous ne croyez pas trop au règlement pacifique de la crise dans l'est de la RDC?
Alors je pense pour l'instant, on est dans une situation très difficile. Je m'explique un peu. Si on demande, par exemple, si on pose la question aux habitants de l'Est, du Kivu, de Goma, de Bukavu, mais aussi ailleurs, on pose la question, qu'est-ce qui se passe actuellement? Comment vous voyez la situation? On pose cette question aux populations de base. On entend de plus en plus des réponses où les gens se sentent rappelés des années de fin des années 90. Donc, pour cadre de référence, les gens ne parlent pas beaucoup de la rébellion du M23 en 2012-2013. Ils parlent beaucoup plus de la situation notamment ceux qui ont l'âge, de la situation fin des années 90, parce que essentiellement on est dans une dynamique qui où personne semble être au niveau politique, personne semble être ouvert à trouver une solution politique à cette crise. Et c'est cela qui fait craindre, et c'est cela aussi qui prête de plus en plus à des discours assez extrémistes de tous les côtés. Et je me permets d'ailleurs, avec tout respect, de revenir sur certains des analyses et des propos de mon collègue Chaombo. Il faut quand même voir un peu les choses correctement. Le Rwanda possède des mines et ils produisent leurs propres minerais. Leur production est énormément inférieure à celle de la RDC. Mais je pense que pour comprendre les racines de cette crise et pour essayer de travailler envers des solutions, c'est très important de rester factuel dans le sens. Donc d'un côté, bien sûr, il y a toujours eu depuis 30 ans des exportations illégales de minerais de l'est du Congo envers le Rwanda. Parfois, notamment dans l'époque RCD, organisée et orchestrée par, entre autres, le gouvernement rwandais ou l'armée rwandaise avec, à l'époque, le RCD, etc. Mais en même temps, il y a aussi le problème, si on reste sur la thématique des minerais congolais, il y a aussi le problème de taxation et de gouvernance du secteur minier. Donc il y a eu des périodes, notamment entre 2013 et 2020, où il n'y avait pas un groupe armé soutenu par le Rwanda sur le sol congolais. Mais même à cette époque-là, il y a eu des producteurs locaux qui, à cause d'un régime fiscal et de taxation favorable au Rwanda comparé au Congo, ont décidé eux-mêmes de, en Swahili, les gens disent souvent kuchoresha, ça veut dire en français faire sortir, les minerais en fait ailleurs. Et ce n'est pas seulement le Rwanda, c'est aussi le Burundi, c'est l'Ouganda, etc. Donc il y a d'un côté cela, et de l'autre côté aussi le fait que dire que le Rwanda ne possède zéro minerai, ça empoisonne aussi un peu le discours dans le sens que ce n'est pas factuellement vrai. Donc c'est important un peu aussi pour peut-être calmer les esprits de justement aller un peu plus en profondeur et de regarder aussi d'autres questions, parce qu'il y a surtout un grand problème, il y a un grand problème au niveau
Merci.
De l'économie politique de la région, mais il y a aussi un grand problème politique qui s'exprime actuellement à travers cette crise.
Timothée Chaombo, vous soutenez cette rencontre hein, entre le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame, même si vous estimez que si la RDC doit y aller, elle va y aller en position de faiblesse. Mais est-ce que cette rencontre ne pourrait pas être un début de solution à la crise dans la partie est de la RDC?
Parce que je suis dans les recherches de résolution des conflits, nous n'aimons pas le conflit, c'est le dialogue qui est une valeur entre nous sommes voisins éternels au Rwanda et que donc on ne va pas jeter le Rwanda dans le lac Kivu, ni dans le volcan Nyiragongo, etc. Donc le Rwanda restera nos voisins, nous avons des compatriotes de l'autre côté qui ont des familles à Goma, etc. etc. Je soutiens ce dialogue-là. Sauf qu'on ne doit pas y aller à genoux. Mais nous y allons quand même à genoux, parce que nous ne contrôlons pas certains territoires dont les poulains du Rwanda contrôlent.
Le président Tshisekedi a posé quand même des conditions. Hein. C'est le retrait du M23 avant toute rencontre avec le président Kagame.
Oui, mais le président Tshisekedi risque de poser des conditions qui ne se feront pas sous le terrain et que donc, comme Christophe l'a dit, l'escalade risque de continuer, la dégradation de la situation risque de se poursuivre parce que finalement, à ce moment-là, ce sera la seule logique de guerre. La diplomatie restera pour assister à des sommets, mais la confrontation sur le terrain qui sera la seule option. Or, les rapports de force indiquent jusqu'à présent que le M23 soutenu par les États voisins, dont le Rwanda en tête, prend les localités, parfois sans combat. On parle du côté du FARDC de retrait et repli stratégique, mais on perd les localités. Et le drame humanitaire, vous l'avez très bien décrit, il est très grand. Le problème, c'est que dans le monde, c'est les rapports de force qui déterminent les relations entre les acteurs sur la scène internationale. Il faut que les gens notent une chose. La guerre est un besoin. Regardez les bilans, je veux dire les budgets militaires des États dans le monde, ça ne fait qu'augmenter. La guerre est un besoin. Ce n'est pas un gros mot de le dire. Parce que lorsque, par de la diplomatie, par les négociations, vous ne voulez pas me donner ce que vous avez alors que j'en ai besoin. Lorsque j'envoie un ami vous persuader que vous puissiez me le céder, vous ne voulez pas. Mais je m'organise, j'évalue vos points forts et vos points faibles et je viens vous attaquer. Le président Sarkozy a été clair avec nous pour dire le Rwanda n'a pas de mines, le Rwanda n'a pas de richesses, il faut partager avec le Rwanda. Et comme pour surenchérir sur les déclarations du président Sarkozy venu à Kinshasa à l'époque, l'Union européenne vient de signer la convention, un mémorandum d'entente d'exploitation des minerais. Lorsque j'étudiais la géographie économique de la région des Grands Lacs, le Rwanda est un pays de producteurs de lait, de vaches et de thé. Si on a découvert des mines, Christophe, je vais poursuivre mes recherches. Nous apprenons tous les jours, c'est pour ça que nous sommes chercheurs. Mais les rapports, et pour rester factuel, les rapports des Nations Unies indiquent que l'économie du Rwanda a augmenté avec l'exploitation des minéraux à partir du moment où le Rwanda a mené la guerre en RDC, à travers l'AFDL, ensuite le RCD Goma, le CNDP, aujourd'hui le M23 avec les groupuscules qu'il y a. Lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, a instauré l'état de siège, il faut vous dire, Christophe, qu'au Rwanda, l'économie a commencé à baisser. Parce qu'effectivement, au-delà du tourisme, au-delà de l'essentiel de l'économie du Rwanda est basé sur le minerai du Kivu. Un deuxième élément, je reste factuel, nous sommes dans la recherche de ce qui se passe, de la crise qui se passe au Kivu, au-delà de l'aspect économique, stratégique, mais il y a aussi cette volonté dans les grandes académies scientifiques au monde de réviser les frontières pour qu'on puisse réunir les populations qui sont de l'autre côté, de part et d'autre des frontières, que l'on crée des petits états, des micro-états. Ça, c'est aussi un projet latent, mais qui tend à se concrétiser. Et je crois l'alinéa 4 d'une disposition de la charte de l'EAC dispose que si un pays a des compatriotes, des minorités qui sont en difficulté, l'EAC peut être en mesure de venir gérer des terres pour ces minorités. Et c'est le thème que le président Kagame va amener aux négociations. C'est pour ça que je crains, et là je donne Christophe totalement raison, c'est que les négociations du Luanda dirigées par le président Lorenzo risquent d'aboutir à une souris parce que les positions, Paul Kagame va venir avec la rhétorique que j'avais rappelée tantôt, à la fois de la protection d'une minorité qui serait en danger et de la menace courante. Voilà. Et le président Tshisekedi, lui, veut parler avec son homologue rwandais, mais avec la condition que le M23 se retire. Ces conditions ne seront pas, les deux ne vont pas s'attendre, parce que l'autre, chacun va garder ses positions. Donc, nous allons rester avec la seule option, la guerre. Et la guerre pour la faire, il faut avoir des moyens.
Professeur Mwaila Chimbe, est-ce que vous êtes en ligne? Professeur Mwaila, vous êtes en ligne? Ah voilà. Alors, je rappelle que vous êtes... Oui, ça passe. On vous capte bien, professeur, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy. En France, professeur, la situation sécuritaire et humanitaire reste préoccupante dans la province du Nord Kivu. Entre-temps, plusieurs appels et initiatives pour les règlements pacifiques de la crise dans l'est du pays sont enregistrés. Et la dernière en date est celle du président angolais, João Lourenço, qui a reçu le président rwandais, Paul Kagame, qui se dit prêt à rencontrer son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi, pour essayer de trouver une solution à cette crise. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur?
Oui, Madame Kelly, je pense qu'il y a lieu de dire que le retour de la diplomatie, dans la mesure où la guerre n'est que la politique menée par d'autres moyens, selon l'enseignement que nous a légué Clausewitz, le stratège allemand, le soldat et le diplomate, ce sont les figures de l'État dans des situations telles que celles que connaît la République démocratique du Congo face à cette guerre asymétrique qui oppose une armée d'un État souverain avec les groupes de combattants congolais ou étrangers. Je ne vais pas m'occuper de cet aspect des choses. Vous savez, la dernière fois, lorsque vous nous avez fait l'honneur de nous inviter pour discuter de cette question, nous pensions que la négociation, si négociation il y a, elle doit se faire d'abord entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Des collègues avaient estimé à l'époque, mais alors si c'est entre eux, qu'est-ce que se passerait-il avec le M23? Je pense honnêtement, sauf à la preuve du contraire, que si, la perspective est en train de s'ouvrir, mais attendons voir concrètement ce qui se passerait. Mais dans cette hypothèse, dans la mesure où la diplomatie a repris la main, le président congolais s'est dépensé pour expliquer effectivement la situation de son pays et de son armée. Et aujourd'hui, il est presque acquis que même si tout le monde ne soutient pas la République démocratique du Congo, mais la protestation, l'explication du Congo par rapport au Rwanda, cette explication est passée dans beaucoup de milieux. Et la pression sur le président Kagame est intense parmi ses propres alliés, à commencer par les Américains. Par conséquent, le fait qu'aujourd'hui le président Kagame ait accepté de discuter avec le président Tshisekedi, c'est peut-être un pas positif, mais l'hirondelle ne faisant pas le printemps, attendons voir. Donc, on peut capitaliser sur cette rencontre, sur la médiation de Luanda, bien sûr soutenue par l'Union africaine, les pressions américaines. Mon collègue avait soulevé tout à l'heure le fait que l'Union européenne a signé un accord avec Kigali, alors que Kigali n'a pas de minerais, etc. Tout ça est vrai, mais dans la situation actuelle, quel que soit par ailleurs les éléments, les paramètres classiques, les faiblesses réelles ou supposées de FARDC, tout ce que les collègues ont expliqué est vrai. Mais dans l'étape actuelle, c'est la diplomatie qui reprend la main. Évidemment, sur le terrain, le M23 ne peut pas se laisser distancer. Donc, en carburant, en mettant un peu le pied au plancher, le M23 veut montrer, avant l'hypothétique rencontre et l'hypothétique négociation, qu'elle tient la maison et les objectifs qu'elle s'est assignés, elle peut les maintenir. C'est tout à fait normal. Avant les négociations, tout le monde monte les enchères, montre les muscles pour ne pas être, comment dirais-je, marginalisé. Chacun peut se muscler en disant ce qu'il peut dire ou en faisant ce qu'il est en train de dire. Alors, on a indiqué tout à l'heure que quelques villages ont été récupérés. Nous ne connaissons pas exactement quelle est la stratégie de FARDC en ce moment. Mais vous savez, madame, dans une guerre asymétrique, on ne peut pas défendre tous les fronts. Vous savez que la menace réelle est la prise de la ville de Goma. Et qu'il est tout à fait normal que le gouvernement ait mis tous les moyens dans le jeu pour éviter que la ville de Goma ne tombe. Par conséquent, on peut, pas dire négliger, mais on peut mettre entre guillemets la prise des villages lointains qui ne mettent pas en cause l'accès à la ville de Goma. Donc ça peut être une hypothèse explicable, compréhensible.
Mais là, la ville de Goma est de plus en plus enclavée, professeur. Je disais la ville de Goma.
La ville est encerclée, je n'en disconviens pas. Mais elle n'est pas encore tombée. Donc, aussi longtemps que la ville de Goma n'est pas tombée, on peut discuter. Moi, je soutiens la thèse que si le président Kagame vient à la rencontre du président Tshisekedi et que les deux hommes d'État, quelle que soit l'opinion qu'on puisse se faire des intérêts du Rwanda que les collègues ont expliqué tout à l'heure, mais il y a aussi une question de crédibilité. Le président Kagame ne peut pas passer au, comment dire, se contenter seulement de faire prévaloir ses intérêts en ignorant les intérêts de la République démocratique du Congo, toutes choses étant égales par ailleurs. Par conséquent, la phase qui vient et la manière dont le gouvernement congolais s'est emparé de cette question diplomatique en frappant toutes les portes possibles, il est plausible que si chacun met de l'eau dans son vin, il est probable qu'on puisse discuter de quelque chose.
Alors, on va vous garder, professeur. Professeur, reste en ligne. Le temps pour nous juste de prendre cet auditeur qui appelle depuis Guémena, dans le sud de Bangui. Je vous redonne la parole juste après.
Cédric Lindende, depuis Guémena, chef de la province du sud du Bangui. À mon avis, le chef de l'État congolais doit obligatoirement suivre la voie diplomatique, puisque l'avancée des rebelles devient de plus en plus inquiétant. Nos forces ont du mal à repousser les ennemis. Tant mieux de négocier afin de sauvegarder la vie de nos concitoyens habitant l'est de notre pays.
Alors, il vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure, professeur.
Je n'ai pas bien suivi exactement ce que ces compatriotes.
Alors, ce compatriote qui nous a appelé depuis Guémena dans le sud au Bangui, pense que le chef de l'État congolais doit obligatoirement suivre la voie diplomatique, puisque l'avancée des rebelles sur les terrains devient de plus en plus inquiétante. Cette rencontre pourrait sauver beaucoup de vies.
Évidemment, madame, la guerre, on peut la mener soit par la diplomatie, soit par les armes. Donc ce sont les deux instruments dans les mains du chef de l'État. On peut les manipuler selon le temps, selon le moment, selon les circonstances. Évidemment, les paresseux se battent avec leurs moyens. Les collègues en ont déjà parlé, la diplomatie est aussi un des outils dans ces moments difficiles. On peut utiliser la diplomatie, c'est le canal qui est devant nous. Alors, la question est, quelle sera d'abord demain la suite de la rencontre? Attendons voir si la rencontre ait d'abord lieu, et ensuite on pourra juger. Mais quand on sait, madame, dois-je rappeler qu'il y a quelques années déjà, il y a 10 ans presque, le M23 était vaincu les armes à la main par les FARDC avec la brigade armée des Nations Unies. Mais pourquoi le M23 est revenu plus de 10 ans après? Ça veut dire que la victoire militaire n'est pas suffisante. Il faut voir quelles sont les conditions réelles qui ont prévalu pour que tel ou tel groupe prenne le maquis ou prenne les armes. Dois-je rappeler que l'accord Amadou qui a été signé à l'époque de CNDP de Laurent Kunda, il y avait plusieurs points. Parmi les points les plus essentiels, il était prévu que, un, dans les demandes du M23, il faut que les Congolais Tutsis qui ont fui le pays pour des raisons de violence rentrent au pays. Nous avions expliqué à l'époque que tous les Congolais qui ont fui guerre ou qui sont partis pour d'autres raisons et qui ont le statut de réfugiés, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui doit les faire revenir. Les exilés qui ont le statut de réfugiés ne peuvent rentrer dans le pays que par leur volonté. C'est les Nations Unies qui sont à la manette, ils doivent discuter avec les Nations Unies. S'il y a une volonté de rentrer, le gouvernement congolais ne peut qu'acquiescer. Donc sur ce point-là, on peut vite aller en besogne, c'est-à-dire essayer de régler ce point. Alors, le point le plus important...
Très rapidement, professeur.
Les négociations
très rapidement, s'il vous plaît. Allez-y, très rapidement.
Il était demandé dans cet accord, il était demandé que les Tutsis congolais qui rentraient récupèrent leurs biens. Or, ces biens, depuis que les années sont passées, sont dans les mains d'autres Congolais qui estiment que ce sont des étrangers. Ils ne peuvent pas récupérer les biens parce que les biens nous appartiennent. Madame, voilà un point de discorde qui, si vraiment il y a bonne foi de part et d'autre, peut permettre peut-être d'avancer pour aller vers la recherche d'une solution.
Alors on va se rendre cette fois-ci à Goma pour écouter cet autre auditeur qui nous appelle.
Moi c'est Pierre Moussafiri depuis la ville de Goma au Nord Kivu. Je commence par dire que nous encourageons tous les efforts et tous les moyens possibles que le gouvernement congolais peut utiliser pour ramener la paix dans la province du Nord Kivu, Ituri et Sud Kivu, surtout avec la question du M23 RDF. Néanmoins, nous constatons que la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise gagne de plus en plus d'intérêt en occupant nos territoires, au lieu que les FARDC récupèrent ceux qui sont occupés. D'où pour moi, il faut d'abord se poser des questions sur pourquoi la rébellion avance sur terrain malgré la montée en puissance des FARDC. Personnellement, je pense qu'avec la trahison au sein de notre armée, il sera toujours difficile de gagner cette guerre avec les armes, vu comment la rébellion a occupé plusieurs localités dans moins d'une semaine, dont certaines ont été occupées sans combat à, par exemple, la cité de Vichumbi. Personnellement, je privilège la voie du processus de Luanda et cela pour l'intérêt de la population qui traverse des moments très difficiles dans le cas de déplacer à Goma et ses environs et partout ailleurs.
Christophe Vogel, brève réaction par rapport au point de vue de Pierre Moussafiri de Goma.
Bonsoir Pierre, je suis tout à fait d'accord avec ce témoignage, ça reflète beaucoup d'histoires similaires et de récits similaires que j'entends, mais je veux bien revenir à ce que le professeur Tshiembe avait dit. Je pense que le grand problème actuellement est justement qu'il y a cette montée d'enchères qu'on a vu d'ailleurs dans les négociations de Sun City, dans les négociations de la conférence de Goma quelques années plus tard. C'est chaque fois qu'on a cette situation, qu'il y a des groupes armés ou des conflits qui sont en train d'escalader, on voit justement ce positionnement. Donc je pense que ce qui est important maintenant, peut-être pas pour les objectifs politiques des uns ou des autres, mais essentiellement pour la population de Goma, mais pas seulement de Goma, parce que le Nord Kivu, c'est beaucoup de territoires et encore plus de villages. Et il y a souvent aussi, on parle beaucoup de la menace qui pèse sur Goma, qui est réelle, mais on oublie parfois justement des endroits comme Vichumbi ou comme Pinga et beaucoup d'autres. Et je pense qu'actuellement, le grand défi, c'est justement de réfléchir comment résoudre ce problème d'une manière aussi qu'il n'y a pas une paix imposée par l'étranger, par exemple, qu'il y a une paix qui est négociée au terme qui mette à l'aise à la fois le gouvernement congolais mais aussi surtout la population qui en souffre le plus de l'insécurité et des conflits. Et de réfléchir un peu dans ce sens, et aussi surtout parce que nous tous auditeurs ou intervenants ici sur Radio Okapi, on n'est pas forcément les gens qui sont sur terrain et qui souffrent de cette guerre. Donc de la manière de nous engageons et nous discutons, on doit surtout réfléchir sur qu'est-ce qui est le besoin de la population qui souffre de cette guerre. Et de justement aussi essayer de atténuer certains clivages qui sont très populaires dans les médias, dans les réseaux sociaux ces jours-ci, qui peuvent être à la fois des clivages qui s'expriment de manière ethnique ou d'autres, et justement de concentrer les énergies et aussi de recadrer un peu les débats sur comment on peut contribuer à ce que la population du Nord Kivu peut vivre en paix, n'importe leur provenance, n'importe leur appartenance ethnique, parce qu'à la fin, le grand objectif, c'est d'avoir un Congo uni où tout le monde, toute Congolaise, tout Congolais peut vivre en paix. Et c'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup veiller au discours divisionniste, etc., mais aussi de rappeler les autorités à la fois nationales, congolaises, mais aussi des États voisins, et même la communauté nationale qui jusqu'à à présent se démarque avec un relatif silence, parfois complice, de mettre les populations de l'Est du Congo au centre du débat.
Timothée Tchaombo, on va aller cette fois-ci, on va où la réalisation me dit que l'auditeur appelle de Kinshasa, voilà, on va écouter cet auditeur de Kinshasa, pour vous.
Je suis Kayembe, président à Kinshasa. De prime abord, je salue le président Kabila pour avoir accepté de se rencontrer avec son homologue congolais. La guerre ne résout pas les problèmes, elle contribue au sous-développement. Moi, je suis content que les chefs se rencontrent et trouvent une solution pour la stabilité à l'Est. Ceux qui veulent que nous partions en guerre n'ont jamais subi les conséquences d'une guerre. Nous qui sommes victimes de cela, nous connaissons comment ça fait.
Alors, c'était Jean KMB qui nous appelait de Kinshasa. Timothée Tchaongo, petit commentaire sur les propos de Jean KMB.
Oui. Il est vrai, parfaitement vrai que pour toute crise, il y a trois options, l'option politique, il y aura des intégrations, des armements, etc. C'est un processus politique, mais il y a aussi l'option diplomatique que nous avons, le professeur Chiembe l'a rappelé, et puis Christophe aussi. KMB soutient cette option, nous soutenons cette option, mais il y a aussi le volet militaire, parce que François Tsoal, qui est un géopolitologue français, disait contrôler pour contrer. Donc le Rwanda nous met devant une situation où il a une organisation qui s'appelle le M23 qui contrôle un certain nombre de territoires où se trouvent les différents minerais, parce que pour rappeler Christophe, Rutongo, la seule mine qui est au Rwanda, je crois une ou deux à Rutongo à quelques vingtaines de kilomètres, ne peut pas satisfaire le besoin des grandes technologies dans le monde. C'est pour ça que le Rwanda a besoin du minerai du Kivu pour faire le carton qu'il faut pour toutes les technologies et toutes les sollicitations qu'il y a des États-Unis, de la Chine et même de l'Europe. Donc je reviens à KMB pour dire oui, nous sommes sur les options politiques, la RDC est sur l'option diplomatique, le président Tshisekedi est partout, sur tous les fronts, mais si ces deux options ne résolvent pas la situation du Kivu, l'option militaire est une option qui pourra redonner la souveraineté de notre pays pleinement. Et donc, ceci ne doit pas être une option à écarter. Elle est une option républicaine. Tous les pays du monde aujourd'hui sont en guerre. Et donc, parce qu'il faut préserver sa civilisation, c'est pas extrémiste de le dire, le budget militaire de la France augmente, de l'Allemagne trois fois plus. Les États-Unis sont à 877 milliards, des tout petits pays aussi. Donc, il faut que nous puissions préserver la civilisation, notre peuple, en tant qu'État d'attaque nation. Là, il n'y a pas un problème ethnique. Il n'y a pas un problème ethnique, c'est un terme de propagande pour rien. La question est tout simplement économique et la question est l'eurogenèse.
Merci,
c'est cela le vrai problème. Timothée. C'est le débat qui s'invite à Luanda.
Merci Timothée. Vous êtes très nombreux internautes de Radio Okapi. On ne pourra pas lire toutes vos réactions. On va en prendre quelques-unes. Jeannot Matambo depuis Moba. Moi, je pense que le président de la République s'est trop concentré à la recherche des investisseurs au lieu de chercher des partenaires pour consolider la sécurité de son pays. Kaikai Kabastele Kialumba depuis Kananga. Quand les approches diplomatiques et pacifiques échouent, l'approche militaire ne peut pas échouer. Richard Kalenga, nous sommes fatigués d'user de cette voie diplomatique qui nous amène à des discussions infinies alors que c'est une portion de notre territoire qui est sous contrôle du Rwanda, barricadant nos frontières pour voir comment le Rwanda peut franchir le Congo. Alors, professeur Moïla, nous sommes à la fin, vraiment à la fin de cette émission. Il y a un internaute qui a requis l'anonymat, qui demande aux invités de ce soir, en acceptant de rencontrer le président Tshisekedi, Paul Kagame, se reconnaît-il être parrain du M23, c'est-à-dire acteur dans le conflit, ou comme celui qui a la clé ou la solution à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC? Professeur Moïla.
Je félicite, madame, du moment où le président Kagame a accepté de rencontrer le président Tshisekedi, implicitement, il reconnaît qu'il est dans l'équation. C'est tout à fait évident. Et je dois rappeler ici qu'indépendamment des revendications du M23, la question des FDLR, madame, il ne faut pas négliger le moindre détail. On a toujours négligé la demande rwandaise des FDLR, au motif qu'ils ne sont plus nombreux, ceux qui sont là sont très vieux, que Kagame exagère. Peut-être exagère-t-il, mais il ne faut pas lui donner l'occasion de prétendre que le Congo, les Congolais, le gouvernement congolais utilisent les FDLR qui sont considérés à tort ou à raison comme une menace attentatoire à son pouvoir. Il faut régler cette question. Ces FDLR qui ont le statut de réfugiés, ce sont des Rwandais. On doit examiner cette question, la tête reposée. Ceux qui veulent rester au Congo, ils peuvent changer leur statut, soit comme réfugiés, soit demander la nationalité congolaise compte tenu de nombreuses années qu'ils sont là, soit aller dans un autre pays en dehors de la frontière du Rwanda.
Merci.
Ou rentrer dans leur pays.
Merci.
Il faut faire aborder cette question, la tête froide. Les FDLR, ce ne sont pas des Congolais. Il ne faut pas chicaner là-dessus.
Merci, professeur Moïla. Christophe Vogel, votre conclusion. Cette fois-ci, est-ce qu'il faut y croire ou on y va encore avec beaucoup d'hésitation?
Bon, alors, ça sera difficile de répondre à cette question parce que nous, les universitaires, on a du mal à croire à beaucoup de choses. Mais ce que je peux souligner, c'est que ce que le professeur Chiembe vient de dire, nous sommes dans une situation où la crise est fondamentalement politique. Et donc, c'est très difficile à croire à l'idée que, par exemple, une solution militaire va faire beaucoup de merveilles. Et justement, pour de vrai ou pour de faux, si on fait face à des discours tellement diamétralement opposés, je cite l'exemple de le Rwanda qui accuse le Congo de donner le soutien aux FDLR qui sont leur pire ennemi. N'importe qui sont faibles ou forts, ça reste une menace essentiellement idéologique due à l'histoire du génocide de 94. Et en même temps, le Congo qui accuse le Rwanda de agresser lui-même le territoire congolais et par ricochet aussi de soutenir le M23.
Merci.
Donc il faut essentiellement qu'il y a tôt ou tard un débat parce que des questions fondamentalement politiques et avec une telle opposition, il y a très peu d'exemples dans l'histoire récente de la région où cela a été résolu par voie des armes. Il n'y a pas beaucoup d'exemples non plus où cela a été résolu de manière durable par la négociation, mais si on commence à perdre l'espoir qu'une vraie négociation peut avoir lieu, on peut aussi perdre l'espoir dans beaucoup d'autres choses dans la vie.
Merci Christophe Vogel. Timothée Tchaombo, vous avez 30 secondes pour conclure.
30 secondes. Première des choses, on attend d'abord la rencontre entre les deux présidents, Tshisekedi et Kagame. La question de FDLR, moi je crois que les casques bleus peuvent avoir sauvé un peu leur peau avec le gouvernement congolais en mettant tous les Hutus sur les chemins de retour. Mais comme on ne peut pas forcer un exilé à rentrer là où il peut connaître la mort, etc., lui craint pour sa sécurité, pour sa vie, ben, il faut qu'il y ait une solution pour qu'on trouve que Kagame, comme l'a dit le procès de Chiembe, n'ait plus d'arguments. Pour le reste, l'option politique, diplomatique et militaire restent les trois options pour l'État.
Merci.
Donc l'État congolais va user des trois options.
Merci Timothée Tchaombo, Dialogue Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, Donna Madimba, Jonathan Folani, Hervé Vauca, Jean-Claude Anciala, Kéline Kouté est à la présentation et à la coordination de ce magazine. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.